côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Hey, what's up tout le monde, c'est Young G. Je voulais vous inviter à écouter Les Architectes du son, émission 100% rap. C'est du lundi au vendredi dès 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM. Personnellement, je serai là tous les vendredis avec vous pour faire découvrir des gros sons. Donc manquez pas ça, Les Architectes du son.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun. Mais t'as fait le tour pas mal vite. Puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
Faites au Québec, ici on en a des tonnes de copies. Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Vendredi 24 juin 2021, ici Alex Bergeon et bienvenue au deuxième service du Réchaud. Bon vendredi sur les ondes de chez 94.3 à Québec et de CFAQ 88.3 à Sherbrooke, vos radios universitaires préférées. On est un petit peu d'avance cette semaine. Raison très simple, du côté de Québec, on s'en va du côté de Tadoussac pour la fin de semaine à l'occasion du Festival de la chanson. Donc, en ce moment même, on est sur les routes. Et c'est pour cette raison que l'émission est enregistrée une journée d'avance. Donc, malheureusement, je ne peux pas commenter le fait que les Canadiens ont gagné ou non au moment où on se parle, parce qu'on est en préparation pour le match du 24 juin. Ça risque d'être particulier, ça c'est le cas de le dire. Ça risque d'être une grosse soirée, surtout s'il y a eu victoire hier. Donc, élimination de Vegas sur place. Un 24 juin, soir de pleine lune. Ça risque d'être un cocktail intéressant. Donc, dans le plus grand des mystères que cette émission débute aujourd'hui. Quoique, on a appris ce matin même. Ce matin même jeudi, hein, faut le préciser. Ça risque d'être... C'est rare, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'émission que le contenu pouvait différer entre l'enregistrement et la diffusion. Ça risque d'être assez particulier dans ce cas-ci. Pour donner l'exemple, ce matin même, ce qui s'est passé, c'est qu'on a appris, ou plutôt pour les gens qui ont regardé le match à la télévision cette semaine, le match numéro 5, mardi, donc on était... donc les Golden Knights avaient utilisé une photo dans leur montage très quétaine parmi les partisans du Canadien, évidemment, que... C'était particulier, l'espèce de montage de gens qui encourageaient les Golden Knights, on va dire ça comme ça. Et qu'est-ce qui avait fait particulièrement jaser, c'est le fait qu'on a vu Céline Dion avec un casque et un chandail de Vegas pendant ce numéro d'ouverture pour... Est-ce que c'était pour jouer dans la tête des joueurs? On sait-on jamais. Peut-être que c'était ça le but... déstabiliser les joueurs. Et ça a plutôt créé une commotion généralisée sur Internet. On appelait au boycottage de Céline Dion parce qu'elle appuyait les Golden Knights de Vegas, parce qu'en ce moment, Céline prépare son retour à Vegas notamment, mais en tant que Québécoise, en tant que normalement partisane des Canadiens par défaut, eh bien finalement, il y a eu enquête. Il y a eu enquête. La journaliste de Novo Media, Camille Lopez, sur Twitter, avait remarqué une petite coïncidence avec la photo qui avait été utilisée par les Golden Knights. Et c'est après vérification qu'elle s'est rendue compte que la photo utilisée de Céline qui porte le casque de Vegas et le chandail de Vegas n'était nulle autre que la pochette de Taking Chances, sorti en 2007. Donc, c'était une pochette d'album trafiquée par les Golden Knights plutôt qu'une photo originale de Céline avec un chandail de Vegas. Quoique par le passé, il y avait quand même une photo qui avait circulé avec Céline et son fils René Charles qui, avec sauf erreur, c'était Marc-André Fleury et un autre joueur québécois qui avaient des chandails où ben, Céline avait son chandail Dion et René Charles avait son chandail Angélil. Donc, on avait quand même fait cette espèce de petit clin d'œil-là quand même à Céline. Mais la photo utilisée pour le début du match numéro 5, c'est bien le match numéro 5, le match numéro 5 de la série en ce moment, n'était pas original, donc n'était pas faite pour ce match-là en question. Donc, dans la journée de jeudi, quelques heures avant le match numéro 6, entre Canadiens et Golden Knights, Céline a envoyé un tweet. Donc, au matin du 24 juin, 9h43, très précisément. « Bonne Saint-Jean-Baptiste à toutes les Québécoises et tous les Québécois. Je vous embrasse et vous souhaite une bonne fête nationale. En passant, je n'ai rien à voir avec cette photo. » Et vous savez de quelle photo je parle, petit bonhomme clin d'œil, Céline, signé Céline, les deux becs. Donc, jointe par Radio-Canada. Jointe par Radio-Canada, l'étiquette Sony Music qui représente Céline ne pouvait confirmer quelle équipe occupait le cœur de la chanteuse, mais Céline avait quand même été vue arborant les deux chandails en question. Donc, un chandail avec celui des Golden Knights dans une photo un peu plus récente. Et à l'époque de Céline je pense que c'était la fureur de Céline, que cette photo-là date, en tout cas, ça me rappelle vaguement ce souvenir-là, où elle arborait le chandail du Canadien. Donc, c'est Thomas Gerbert, du côté de Radio-Canada, qui avait posé la question. Quelle équipe supporte Céline dans la série entre Canadiens et Golden? Réponse de Sony. L'artiste n'est malheureusement pas disponible pour commenter la situation. Donc, le mystère plane. Mais c'est ça. Donc, dans l'idée où Vegas voulait jouer dans la tête des l'équipe adverse, ben, ça a plutôt été dans la tête des supporters que ça a été un petit peu plus compliqué dans ce cas-là. Donc, match numéro 6, ce jeudi soir, donc hier, de quel côté a penché la balance? Bonne question, mais c'est sûr et certain, déjà en partant, que ben, le méchant arbitre, là, il n'est plus là. Donc, ça devrait peut-être être moins pire. L'arbitre qui ne cale pas les coups de poing d'en face, même si ça se passe à un pied de sa face à lui. Voilà, éditorial sportif. La controverse qui entoure l'image de Céline par les Golden Knights peut sembler anodine, mais mais s'explique par le fait que bon, elle partage sa vie entre les deux. Évidemment, les Golden Knights avaient partagé une précédente photo en mai 2018 où elle avait chanté avec le chandail des Golden Knights. Donc voilà d'où part cette longue querelle entre les deux villes. Et le Canadien avait rétorqué en 2000, en fait, la première photo des Golden Knights en 2018, une autre plus récente en février 2020, donc juste avant que la pandémie éclate, où on avait Youpi et Céline sur la même photo. Donc deux emblèmes, un duo légendaire signé le Canadien de Montréal en février 2020. Donc, voilà pour la petite histoire. Céline n'a pas donné nécessairement son accord pour que la photo de Taking Chances avec un casse de Vegas soit parmi cette ouverture-là du match numéro 5. Mais quand même, bon, le mal était fait. Les partisans sont partis en peur, mais sait-on jamais qu'est-ce qui arrivera pour la suite des choses. Et sinon, pour rester du côté américain, parce que rien ne va plus non plus pour Rudy Giuliani, qui est l'ancien avocat. Où il est peut-être encore, l'avocat de Donald Trump et ancien maire de New York, qui a été officiellement suspendu par la Cour suprême de l'État de New York, où il ne pourra plus pratiquer le droit jusqu'à nouvel ordre, et ce pour avoir fait une série de déclarations mensongères en vue de favoriser la réélection de Donald Trump. Les documents versés au dossier ne précisent pas qui a saisi le comité de réclamation des avocats, donc l'attorney Grievance Committee à l'origine de la procédure, mais selon le New York Times, il s'agit d'une dizaine d'autres avocats de New York de premier plan qui ont décidé de porter plainte contre leur ancien collègue, on va dire ça comme ça. Un peu comme en ce moment, Gloriane Blais, sublet son nom, enfin, l'avocate Gloriane de Lac-Mégantic, qui, depuis quelques semaines déjà, sur son compte Facebook, faisait l'apologie du fait que le masque était nocif pour les enfants et tout ça. Donc, elle prenait des positions anti-masque, anti-mesures sanitaires. Elle a participé à des manifestations l'hiver dernier et des avocats du barreau du Québec ont décidé de porter plainte contre elle pour justement des propos qui n'ont juste pas aucun sens. Il était temps. On va dire ça comme ça. Ça a pris quand même un certain moment avant que que le barreau se penche sur la question, bien qu'on ait demandé par le passé, par Radio-Canada notamment, qui avait demandé de commenter l'affaire. Le barreau avait décidé que non, mais comme maintenant il y a eu des plaintes déposées contre Gloriane Blais pour son droit de pratique, j'ose croire que ce serait pour qu'elle cesse de représenter le barreau du Québec en tant qu'avocate. Dans son cas, à elle. Donc, après le scrutin présidentiel américain de novembre 2020, du 3 novembre 2020, Rudy Giuliani est devenu le symbole du combat de Donald pour tenter de faire invalider, sans pour autant être capable de présenter des éléments tangibles pour dire que Joe Biden avait fraudé l'élection et que Donald était bel et bien le président encore élu. Évidemment, ben, à chaque fois que quelqu'un dit ça, ben, ils n'ont jamais vraiment de vraies preuves pour prouver qu'il y a eu fraude électorale. L'ancien maire de New York de 1994 à 2001, aujourd'hui âgé de 77 ans, a plaidé sans succès devant la justice de plusieurs États-clés pour obtenir l'annulation du scrutin. Le comité a rappelé que l'avocat septuagénaire avait notamment laissé entendre devant un tribunal de Pennsylvanie que l'élection avait été l'objet de fraude alors qu'il n'avait saisi cette même juridiction que des questions techniques. Donc, il disait qu'il y avait des faux bulletins, qu'il y avait une encre spéciale sur les faux bulletins. Bref, toutes les théories conspirationnistes sur le sujet qui ont circulé sur le web, qui disent que ça va être enfin le temps pour Donald de revenir. Sachez-le, d'ici la fin du mois, on est censé ne plus avoir d'électricité du tout parce que le gouvernement spécial de Donald Trump va revenir au pouvoir et prendre le contrôle de la planète. Donc, en ce moment, c'est ça le gros buzz, c'est ça l'espèce d'événement qui s'en vient, parce que c'était supposé arriver le 3 novembre, c'était supposé arriver au courant du mois de décembre, puis janvier, puis février, et là, on est rendu en juin, et on recommence à donner des dates que la fin du monde arrive, que la fin du monde moderne arrive, et que Donald est en coulisses pour reprendre le pouvoir. Donc, on en est rendu là. C'est plus du QAnon et tout ça. Quoique, il doit y en avoir encore quand même là-dessus un petit peu, mais là, on est vraiment rendu que le pouvoir de Donald va s'étendre à la grandeur de la planète d'ici la fin du mois, supposément. Hein? C'est toujours très important de le mentionner. C'est supposé arriver dans les prochaines semaines. Le grand blackout, le grand reset, appelez-le comme vous voulez, c'est sur quoi les conspirationnistes spinent énormément dans les dernières semaines, puisque ben on déconfine, malgré que la Fédération pour la libération du peuple a déposé des requêtes pour faire lever l'obligation de porter le masque dans les lieux publics, ben on tombe en zone verte quand même dans les prochaines semaines. Donc, il va y avoir de moins en moins d'obligations, sauf lorsque le 2 mètres ne peut pas être respecté ou dans un lieu fermé Oui, la deuxième vaccination est possible et de plus en plus répandue. On arrive tranquillement pas vite aux 3/4 de la population ayant reçu au moins une dose. Je pense qu'en date d'hier soir, mercredi, on arrivait au quart des Québécois qui avaient reçu leur deuxième dose. Donc, ça va quand même assez bien du côté québécois. Ça, on ne peut pas s'en cacher. Le comité qui a décidé Je reviens à Rudy Giuliani, fin de la parenthèse. Je reviens à Rudy. Il lui est également reproché d'avoir affirmé que des milliers de bulletins liés à des personnes décédées avaient été comptabilisés en Pennsylvanie, chose qui n'avait jamais été étayée, qui n'avait jamais été prouvée vraie. Donc, il avait multiplié les fausses déclarations, les faux arguments pour dire que Joe Biden avait frauduleusement gagné l'élection. Ça n'était pas prouvé, ça n'était pas vrai non plus. Le comité évoque donc des accusations avancées par Monsieur Giuliani à ce moment-ci à propos de scrutins en Géorgie et en Arizona. Ce sont les deux États clés, on va dire ça comme ça, où il s'est censé être renversé, que finalement Donald aurait le pouvoir grâce à ces États-là. Mais à chaque fois qu'il y a eu tentative de renverser le verdict final, ça avait toujours été prouvé que ce n'était pas vrai, que c'était contre, que finalement, il y avait c'était pas vrai. C'était de fausses allégations, de faux arguments. Donc, pour l'instant, rien n'a été prouvé qu'effectivement, il y avait eu fraude lors de la dernière élection américaine. Et que pour l'instant, Joe Biden est toujours le président des États-Unis, malgré que certains complotistes voudraient que Donald reprenne le pouvoir. Ce n'est pas chose faite. Les déclarations mensongères visent à éroder la confiance dans nos élections et dans le gouvernement en général, indique la décision. Quand elles sont le fait d'un avocat, elles ternissent la réputation et toute la profession. La Cour a également cité les événements du 6 janvier au Capitole des États-Unis, lors desquels les émeutiers, pour la plupart supporters de Donald Trump, bien qu'il y avait des casseurs au travers de tout ça, c'est sûr et certain, mais la plupart des membres de la foule avaient été galvanisés par le discours de Donald Trump la veille ou le jour d'avant pour dire « on a un rendez-vous le 6 janvier, qui pouvait être interprété comme « Allons au Capitole le 6 janvier ». Et c'est par la suite que ce rassemblement de gens-là a dégénéré au point où des gens ont enfoncé les portes du Capitole, défoncé les fenêtres et qu'il y a eu malheureusement décès de Trumpistes qui ont tenté d'entrer dans des lieux qui étaient protégés par la sécurité et qui ont dit « On va ouvrir le feu si vous tentez d'entrer ». Une femme a tenté d'entrer et elle a été tirée parce qu'elle essayait d'entrer dans une zone protégée où les différents membres du Parlement se trouvaient à ce moment-là. Donc, malgré le fait que le policier avait prévenu qu'il allait tirer s'il tentait d'entrer, elle a tenté d'entrer et c'est ce qui est arrivé. On connaît les événements par la suite. Elle a succombé à ses blessures. Donc, événement tragique. Évidemment, il n'y aura pas d'enquête parce que les Républicains ont bloqué toute enquête possible, du moins un comité qui devait se pencher sur la question. Ça avait été bloqué et par la suite, on est encore dans l'incertitude de faire lumière là-dessus. Mais en ce moment, au Capitole, c'est ce qui est arrivé suite à ces événements-là. Et dans le cas de Rudy Giuliani, il est maintenant suspendu. Il n'a plus le droit de se présenter comme étant un avocat, du moins devant la cour, puisqu'on lui a suspendu ses accès et son permis, du moins, dans les derniers jours. Ça vient d'arriver, cette nouvelle-là. Donc, de Rudy Giuliani, qui n'est plus avocat, du moins temporairement, suite aux nombreuses fausses déclarations qu'il a faites dans les médias. Et c'est là-dessus qu'on va aller en courte pause musicale. Au retour, la suite de l'actualité de la semaine. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
La vie ne vaut d'être battue. Et moi, je la regarde flambant nue. Puis c'est comme si j'avais jamais rien vu avant. L'été s'achève par le dessus. Rien n'est gagné, rien n'est perdu. Et moi je pense à la malheureuse chanson tout le temps. Écrire jusqu'à en avoir mal aux phalanges. La vie ne vaut d'être vêtue de louange. C'est comme si j'avais jamais rien eu de vrai. Je pense à toi tous les jours. Ma chanson remplie d'amour. Tu te fais vieille machine à ton secours. Ah, ah. Écrire jusqu'à en avoir mal aux phalanges. La vie ne vaut d'être vêtu sans confiance, sans joie immense, en rubanesque et pour compte, pas trop longtemps, juste un petit peu, des fois faire du bruit dans les rues, voir devant moi. La vie est tenue. Zut.
Thierry Larose, qu'on vient d'entendre en musique sur les ondes de Chiz 94.3 et de CFAQ 88.3. C'est maintenant l'heure du retour de la chronique cinéma, du moins pour deux films qui étaient en ligne, parce que malheureusement, le cinéma n'a pas été extrêmement garant pour eux. On va débuter tout de suite avec Raya et le dernier dragon présenté par Disney.
Je me suis entraînée pour devenir la gardienne du joyau des dragons. Mais notre monde a changé. Et les peuples sont divisés. Désormais, pour rétablir la paix, je dois trouver le dernier dragon. Je m'appelle... Raya. Tuk Tuk, t'es un peu trop lourd pour ça maintenant.
Présenté sur Disney Plus même et du côté de Québec au Clap de Loretteville à partir de ce vendredi 25 juin en matinée. Donc, si jamais vous voulez vous rendre dans une salle de cinéma pour le voir, il y a très longtemps, les dragons et les humains vivaient en harmonie dans le royaume de Kumandra. Puis, quand une force maléfique est apparue, transformant les humains en pierre sur son passage, les dragons se sont sacrifiés pour sauver les humains. Aujourd'hui, 500 ans plus tard, la même menace plane sur la cité. La jeune guerrière Raya se lancera alors dans un long périple afin de retrouver le dragon Sissou qui pourrait l'aider à ressusciter ses proches et rétablir la paix entre les différents peuples de Kumandra. Donc, comme je le disais, film de Disney qui a été présenté, qui devait être au cinéma, mais qui finalement s'est retrouvé directement sur Disney+. On a un doublage québécois, ce qui est quand même assez important dans ce cas-ci. Donc, il était vraiment prévu pour sortir en salle, en oubliant le fait que la COVID-19 est là. C'est intéressant. C'est pas le plus cool des Disney. T'sais, on retombe tranquillement, pas vite, peut-être dans une petite période un peu plus creuse pour Disney, comme il y a toujours dans les productions de films, dans l'idée où, par exemple, il y a eu dans la même époque les Aladdin, Belle et la Bête, Histoire de jouets 1, Tarzan à la limite, autant que dans la début 2000, on avait les Atlantides perdus, on avait tous ces films-là qui sont passés un petit peu plus dans l'oubli jusqu'à temps qu'on revienne avec La Reine des Neiges, avec Histoire de jouets 3. Fait que tu sais, il y a toujours ces petits creux-là. Raya et le dernier dragon, je me dirais qu'il rentrait là-dedans. C'est sûr que c'est c'est un beau film, mais on sent que c'est un film qui a été fait en télétravail. Dans l'idée où dans ce genre de film-là, vu qu'on rencontre 5 nations qui normalement devraient posséder 5 morceaux du dernier dragon, donc ça c'est vraiment dans l'histoire du film, il faut le voir pour comprendre ce passage-là, mais dans l'idée où on devrait normalement rencontrer 5 peuples, 5 nations, 5 dynasties, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ces communautés-là. Oui, ça aide que les personnages soient techniquement des pierres, donc on n'a pas besoin de les animer, Mais dans les faits, probablement que dans un film qui aurait été fait en temps normal dans les studios de Disney, que les créateurs n'étaient pas chez eux à faire différentes foules. Les foules sont très minces. Donc, on a, au lieu d'avoir peut-être des 200-300 personnes, nage, bien qu'ils ne disent rien, mais du moins qu'on remplisse le décor, ben on sent qu'il y a peut-être une vingtaine, trentaine, gros top 50 personnages qui se retrouvent ensemble. Donc, on le sent un petit peu. Tu sais, cette idée-là, justement, que les personnages devraient être dans des foules, ben on va sentir quand même que les cités vont être un petit peu plus minces que normalement. Bon, l'histoire aide, l'histoire du fait que, justement, les gens sont pétrifiés, sont sous le coup de la malédiction, ça aide. C'est sûr que ça aide dans ce cas-ci. On se transporte du côté de l'Asie, dans cet univers-là de Raya. Donc, sans nécessairement être approché de Mulan, on est dans le sud-est, donc on n'est pas nécessairement en Chine en tant que tel, mais bon, dans un monde qui pourrait être du côté de l'Asie. Les scénaristes ont développé une mythologie élaborée fascinante qu'on prend plaisir à découvrir au fil des aventures de Raya, peut-on lire dans certaines critiques. Même si elle s'appuie sur des valeurs d'entraide et de solidarité fondamentale, la morale du film propose une idée originale que peu d'œuvres pour enfants ont exploitée de cette façon. Donc, Raya et le dernier dragon encouragent les jeunes et moins jeunes à faire confiance à autrui, même s'ils ont été trahis ou bafoués par le passé. C'est vrai que cette dimension-là. Donc, on a fait confiance à certains personnages au début de l'histoire, mais qui vont, un moment donné, pour une raison ou une autre, trahir la Raya, la personnage principal. Et c'est à noter aussi que la plupart des personnages principaux, donc dans le casting principal, ce sont tous des personnages féminins. Donc, on a le Comic Relief, qui sont deux personnages masculins, mais les personnages principaux de cette histoire-là seront féminins. Donc, même les dirigeants, même les chefs des différentes tribus seront des femmes. Donc, c'est quand même assez rare, on va dire ça comme ça, du moins où habituellement, ben oui, on a des films de princesses. Oui, techniquement, Raya est une nouvelle princesse dans l'univers Disney, mais elle ne s'inscrit pas non plus comme ayant besoin d'un mari ou cherche à se marier comme dans les premiers Disney, ou un peu, ben, c'est un peu dans la lignée aussi de la Reine des Neiges. La Reine des Neiges, Elsa, elle-même, ne cherche pas à trouver un roi avec qui partager le pouvoir. T'sais, elle est là. Bon, dans le cas d'Elsa aussi, il y a quand même un gros débat parmi les fans que peut-être elle pourrait être intéressée par les autres personnages féminins. Donc, elle ne cherche pas de roi parce que peut-être qu'elle voudrait une reine, sait-on jamais. Mais ça, c'est évidemment, ça reste dans les hypothèses parce que ça n'a jamais été confirmé dans les histoires. Mais quand même, dans le cas de Raya, Dernier Dragon, c'est un film intéressant. Je suis content de ne pas avoir payé le Disney Plus Premium pour le regarder en mars. Est-ce que ça valait la peine de payer le 45$ que ça coûte? J'exagère, mais tu sais, ça coûte quand même très cher pour avoir le Premium. Pas nécessairement. En ce moment, le Premium de Disney, c'est vraiment pour voir les films en même temps qu'ils sortent au cinéma, les voir directement sur la plateforme de Disney Plus. Est-ce qu'il y a vraiment des grosses exclusivités en ce moment? Non, pas tant que ça. Je pense que l'exclusivité ce mois-ci, c'est Cruella. Donc, au lieu d'aller voir au cinéma, on pouvait le voir à peu près en même temps qu'il sortait au cinéma sur Disney+. Mais il va déjà être disponible rendu à l'automne. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'aller se garrocher pour aller voir Cruella au cinéma? Oui, parce que ça encourage les cinémas d'aller voir des films en présentiel. Mais est-ce qu'en tant que tel, ça vaut la peine de payer le supplément de Disney Plus pour le regarder tout de suite? Je ne penserais pas. Comme je le dis, ben, la COVID fait mal à tout le monde. Dans le cas de Disney, ça ne fait pas exception. Quoique, il y a beaucoup de stock sur Disney+, c'est sûr et certain, on ne pourra pas en dire le contraire, mais quand même. Donc, pour l'instant, ça ne vaut pas la peine de se garrocher sur Raya et les derniers dragons, dans le sens où... dans le cas de Cruella, pas besoin de se garrocher dessus sur le service premium, mais Raya et les derniers dragons est présentement disponible sur Disney+. Et sur les autres distributions de films sur demande aussi, notamment, sauf erreur, TELUS et Vidéotron le proposent également. Il y a un doublage québécois, c'est quand même sympathique aussi. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les voix, ça, il faut le dire, parce que j'avais commencé le visionnement en français français, jusqu'à temps qu'ils utilisent une expression que j'ai fait « Ah, oups! » J'ai oublié de le remettre dans notre doublage à nous. Mais sinon, ça vaut quand même la peine d'aller y jeter un œil. Est-ce que ça vaut la peine de payer le premium, comme je le disais, en mars pour aller avoir accès? Non. Donc, ça valait la peine quand même d'aller le regarder. C'est pas vrai. Il a été en salle au début du mois de mars, mais comme il y avait deux cinémas dans toute la province qui étaient ouverts, c'était un petit peu plus difficile pour les gens de se déplacer pour aller le voir. Mais sinon, pour les éventuels prochains, Black Widow notamment, qui s'en vient finalement un moment donné au cinéma, celui-là risque de peut-être en valoir un petit peu plus la peine que d'attendre qu'il soit sur Disney+. Donc, en ce moment, Raya et le Dernier Dragon, sympathique. Est-ce qu'il va se ranger à l'histoire des autres princesses et tout ça? Peut-être pas, mais quand même assez sympathique comme film. C'est bien fait, malgré le fait que ça a été fait en pandémie. Courte pause, au retour, deuxième film disponible sur la plateforme de Disney. C'est le film Luca, qui n'a pas de sortie prévue au cinéma, du moins pour l'instant. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Durant quelques heures, les musiciens, les danseurs et les spectateurs ont vibré au même rythme.
Branche-toi sur l'art et la culture d'ici. Écoute local. Écoute Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ça me servira des leçons. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pardon. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, mais ça me servira des leçons. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pardon. Je resterai le fantôme. Faisais un bail que j'étais rentré à la maison. On court après les highs sans jamais regarder au fond. Enterrer mon grand-père, ensuite embarquer dans l'avion. Rencontrer Lucifer, maintenant je serai bon garçon. Enjamber les feuilles, laisser trace sur le béton. Micro dans les mains, j'en guérisine sur le carton. Tison brûlant, j'en ai foutu partout sur mon blouson. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pour les parents. J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, ben ça me servira de leçon. Ah non, ah non, ah bon. Tous les pour les parents. Je resterai le fantôme. Nomade maintenant, mode de vie normal. Mossade parfois les couleurs du voyage. La tournée altère le sens de la morale. Bessève parfois ça part en tout mirage. À quand la dernière fois, dernier rattrapage? Les représailles me font peur, mais j'ai quel âge? Assume que t'es parti, après on n'en parle plus. Oh, reste qu'à laisser aller. Laisse aller le post-it. Passer go réclamer. Par ici les papiers, repêcher les vues.
J'enverrai une carte ou bien j'enverrai des pigeons. S'il est trop tard, mais ça Eh oh, Luca, tu me fais de la peine. Allez, tu viens.
Pinoy, Pipoy, Fidal.
On ne s'approche jamais, jamais de la surface, c'est clair? Tout est génial à la surface, tu vas voir. La marche, l'air, le ciel, les nuages, le soleil. Non, faut pas le regarder. Je rigole, bien sûr qu'il faut le regarder.
T'es déjà allé au village des humains?
Ouais, c'est un peu ma spécialité.
Quelqu'un a de la chance aujourd'hui.
Hé, laisse-les tranquilles. Montez.
Allez, va créer ton club, le club des losers.
Je m'appelle Julia Marcovaldo. Nous, les rebelles, on doit rester solidaires.
On n'est pas des rondelles.
C'est mon père.
À ton avis, c'est pour tuer quoi, ces trucs?
Tout ce qui nage.
Notre vie est tellement plus sympa que la mienne. Il y a des milliards de choses qu'on se croit incapables d'accomplir. Alors qu'il suffirait d'essayer.
Vous êtes très louches tous les deux.
C'est trop dangereux. Ils vont nous voir.
Je connais le problème. T'as un Bruno dans la tête.
Un Bruno?
Dis Silencio Bruno.
Silencio Bruno.
Fort. Ah, Silencio Bruno.
Silencio Bruno.
Silencio Bruno.
Silencio Bruno.
Tu l'entends encore?
Non, que toi, c'est tout.
Voilà. Allez, accroche-toi.
Hé, toi, va jouer ailleurs, stupido.
À toi maintenant, vas-y, dis-le.
Hé, va jouer ailleurs, stupido.
On vient d'entendre la bande-annonce de Luca, nouveau Pixar Disney qui vient de prendre l'affiche sur les ondes, sur Disney+. Du côté musical, on vient d'entendre les louanges sur les ondes de Chiz et de CFAQ juste avant. Même si sa mère lui a formellement interdit, Luca, un jeune monstre marin, s'aventure hors de l'eau. Il découvre alors qu'une fois sec, ses écailles disparaissent et il prend l'apparence humaine. Sur la plage de la Riviera italienne, il fait la rencontre d'Alberto, un autre monstre marin du même âge que lui, peut-être un petit peu plus vieux, je dirais, avec qui il se risque à visiter la ville voisine. Les deux nouveaux compères se lient d'amitié avec l'adolescente Juliana, qui les encourage à participer à un triathlon. Mais ils doivent être prudents, parce que si les habitants de la ville découvraient leur véritable identité, ils seraient cuits. Bien, ils seraient cuits. Ils se seraient fait prendre, parce qu'ils ne vont pas nécessairement manger les monstres marins. Mais quand même, donc, on se transporte du côté de l'Italie, dans un village fictif sur le bord de l'eau. Donc, Luca, qui est un jeune monstre marin, qui est attiré par quand même la vie extérieure, qu'est-ce qui se déroule à l'extérieur de l'océan. Évidemment, ben, il a cette chance de devenir humain lorsqu'il quitte l'océan. Et il sera, il sera curieux d'y aller. Évidemment, sa mère le décourage d'y aller, quoique il finira quand même par traverser la limite entre l'eau et le rivage pour finalement découvrir un peu ce que les humains ont. Comme c'est un Pixar, on peut s'attendre que ce soit très émouvant, plein d'émotions et tout ça, mais un petit peu moins. Un petit peu moins dans celui-là. Donc, si on parle de la mort avec âme, si on parle des émotions avec sans-dessus-dessous, tous ces thèmes-là qui ont été quand même bien abordés par Pixar au travers des années. Dans le cas de Luca, je dirais que c'est plus l'amitié. C'est plus... il y a aussi un peu de différence aussi parce que justement, quand on parle des monstres, on dit ils sont différents, ils sont pas beaux, ils sont dangereux. Il faut pas que ça arrive, que les monstres viennent nous voir. Nous, on veut rester entre nous autres, entre nous, résidents du village. Tu sais, la peur de l'autre, la différence de l'autre et tout ça. Fait que dans ce cas-ci, c'est un très beau film. Bien, visuellement, c'est un beau film. Encore une fois, comme je le dis, est-ce que ça va passer à l'histoire des excellents Pixar? Pas nécessairement. Ça émeut quand même, parce qu'il y a quand même tout cet aspect-là de, bon, le jeune garçon qui découvre la vie en dehors de l'océan. Bon, autant qu'il y a son ami Alberto, l'ami de Luca, qui va lui enseigner ce que lui connaît, mais qu'à un moment donné, il va faire, oh mon Dieu, il existe des livres, il existe autre chose que la vie marine, mon Dieu, la vie sur Terre. Il va être confronté à ça, donc il va avoir cette espèce de, oh mon Dieu, mais il y a toute cette vie-là aussi qui existe, mais je veux pas nécessairement perdre la vie que j'ai sous l'eau. Fait que tu sais, il y a toute cette espèce de dilemme-là que Luca va avoir à vivre un peu, puis bon, est-ce que je reste avec mon ami, est-ce que je vais découvrir la vie terrestre avec Giuliana. Il y a cette question-là aussi qui, bon, est posée dans le film par le personnage principal. Bon, évidemment, ils vont vouloir aller partir découvrir le monde grâce à l'invention de l'homme suprême, la Vespa. Fait que, tu sais, il y a des beaux petits clins d'œil comme ça, comme justement, ben, ils connaissent rien de la vie terrestre, donc ils vont se fier aux petites choses qu'ils ont découvertes. Puis bon, il va y avoir aussi tout ce lien-là humoristique. Lorsqu'ils sont mouillés, les écailles réapparaissent. Donc, on va faire attention de rester au sec, même si on est en bordure de mer, même si on doit aller sur un bateau. Fait que, tu sais, il y a tout ce quiproquo-là aussi de garder l'identité secrète qui est quand même assez intéressant. Bon, comme je le disais, c'est pas un Pixar dans la lignée des autres qui vont faire comme « Oh mon Dieu, quel film extraordinaire, je veux le réécouter 35-40 fois de suite. » C'est un autre film qui est quand même sympathique. Comme je le disais, comme celui-là n'était pas prévu de sortir en salle, c'est un doublage français de France, donc c'est un doublage européen qu'on peut entendre. Il n'y a pas eu malheureusement de doublage québécois. Quoique ça aurait été quand même intéressant d'avoir notre version à nous, mais comme Disney n'a pas cette obligation-là, techniquement, de doubler, comme il n'y a pas de sortie en salle de prévu, on a décidé d'aller directement sur la plateforme. Et ça risque d'être dangereux pour cette raison-là, que les films, s'ils ne sont pas prévus en salle, Disney n'est pas obligé de sortir un doublage québécois. Donc, malheureusement, ça va être notre francophonie qui va y... qui va y passer, mais dans le cas de Luca, bon, il n'y a pas trop d'expressions françaises qui viennent faire comme probablement que ça aurait été dit différemment dans la version québécoise, mais ça reste quand même un jeu un petit peu dangereux dans le cas de Disney quand on fait des sorties directement sur vidéo, entre guillemets, quand on n'a pas de voix marquante. Pour donner l'exemple, à l'époque, Aladdin 1 a été fait en France et au Québec. Le deuxième film d'Aladdin, Le retour de Jafar, n'existe qu'en doublage français. Mais probablement qu'il y a eu quelques protestations puisque le troisième film d'Aladdin, Aladdin et les 40 voleurs, il y a eu un doublage québécois qui a été réalisé et on pouvait réentendre les voix du premier film dans le troisième film d'Aladdin, mais qui était techniquement... je pense que c'est parce que celui-là était sorti au cinéma. Je pense que c'est ça la raison, mais le deuxième avait été directement sur VHS. Donc, ce qui explique la différence entre les deux, mais quand même. On parle également aussi de... Bon, il y a une petite morale aussi d'arrêter d'écouter la petite voix intérieure qui nous dit « Fais pas ça, fais pas ça ».« Silencio Bruno », c'est l'expression qu'ils utilisent. Donc, de faire taire la voix intérieure qui pourrait nous empêcher d'oser, d'avancer dans la vie et des choses comme ça. Donc... un long petit film sympathique qui vaut la peine d'aller le regarder. Bien, il est sur Disney Plus ordinaire en ce moment, donc pas besoin de payer pour le premium. Encore une fois, avoir eu à payer pour le premium, pour ça, ça n'aurait peut-être pas valu les dollars supplémentaires à payer. Je le rappelle, Disney Plus est quand même encore moins cher que Netflix et qui propose de plus en plus un plus grand catalogue. Donc, Luca de Disney Pixar à l'affiche dès maintenant en vidéo sur demande et notamment et surtout probablement sur la plateforme de Disney+, qu'on pourra retrouver ce film-là. C'est Pixar qui signe celui-là. Donc, on n'est pas tout à fait dans les monstres... non, c'est pas vrai. Il y a un monstre marin. Fait qu'on est dans la lignée des monstres... c'est pas du tout Monster Inc. non plus. Fait que ça n'a pas rapport sur cette idée-là sur laquelle je m'enligne. Mais quand même, donc, on n'est pas dans les humains à 100%. On va dire ça, comme dans Pixar. Il y a quand même un côté surnaturel qui vient là-dedans, mais il n'y a pas nécessairement de grosse morale où on ne touche pas à un sujet ultra sensible comme on a pu le faire par le passé. Quoique la différence entre les uns et les autres, on peut y toucher quand même là-dessus, mais on n'est pas non plus dans les grands classiques de Pixar, on va dire ça comme ça. Donc malheureusement, ça ne sera pas un grand classique, mais un autre film qui est quand même assez sympathique, assez joyeux pour l'été, parce que l'été est quand même mis en valeur dans ce dernier film-là. On s'arrête quelques instants. On va continuer sur le doublage parce qu'il y a eu une excellente nouvelle qui a été annoncée. On fait maintenant appel à des comédiens issus de la diversité pour doubler certaines productions ici même au Québec. Donc, les Noirs sont doublés par des Noirs maintenant. Ça fait drôle à dire, mais c'est maintenant chose faite. On a recruté des comédiens issus de la diversité pour faire ce doublage-là. On en parle tout de suite après cette courte pause musicale. Vous écoutez le deuxième service sur les ondes de Chiz et de CFAQ. La conclusion, au retour.
Et si je n'ai pas d'amant, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Si je suis seule dans la vie, c'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je perds tous mes amis, alors c'est quoi? Là, je sais pas. Fais-toi en peur. Ça va, ça va. C'est quoi la vie, c'est quoi la vie? Si je meurs et qu'on m'oublie, alors c'est quoi, alors c'est quoi? Lâche pas, fais-toi encore, lâche. Comme les enfants de mes enfants qui sont mort-nés en m'accouchant. Quand je suis seule, je suis pas seule, je fais comme s'il était avec moi. Je prends l'oreiller dans mes bras, t'es encore là, t'es encore là. Là, je sais pas, fais-toi en pas. Ça va, ça va.
Retour au deuxième service pour la conclusion de l'émission de cette semaine. Lou Adriane Cassidy, qu'on vient d'entendre en musique. Je l'ai parlé un petit peu. C'est un reportage de Radio-Canada qui a eu lieu cette semaine, qui parlait de l'industrie du doublage, qui rattrapait son retard en matière de diversité. La demande pour des voix plus représentatives a vraiment explosé. Donc, même, ça fait partie des contrats de doublage pour certains projets que les réalisateurs, les producteurs originaux demandent à ce que ce soit des voix spécifiques qui doublent les personnages dans différentes séries. Donc, c'est ce que pas l'agence, mais le groupe des doubleurs du Québec, en collaboration avec l'UDA, entre autres, donc l'Union des artistes, ont ouvert un casting pour pouvoir avoir des gens issus de la diversité qui suivent une formation pour pouvoir être des doubleurs eux aussi. Donc, on veut aller chercher ces accents-là, ces différents accents-là, pour pouvoir doubler des films, doubler des séries. Donc, ce n'est plus... Bien, et c'est un monde qui est quand même assez difficile, le doublage. C'est quand même un monde qui est très fermé. On entend ou on voit souvent les mêmes noms aux différents projets et tout ça. Donc, on fait confiance aux mêmes personnes et de rajouter des nouvelles personnes, de rajouter des nouvelles voix et que ça ne soit pas des caricatures non plus. Parce que, veux pas, si on voulait, et en fait, ça s'est sûrement déjà fait, des caricatures de voix de d'autres ethnies qui ne se sont pas nécessairement par le doubleur en tant que tel, bien, on va le sentir de plus en plus dans les prochains doublages au Québec même. Ça a déjà commencé du côté américain. On commence à faire cette espèce de distinction-là, au sens où certains personnages qui étaient doublés par des personnes blanches, des personnes caucasiennes, ne le seront plus à l'avenir. On pensait une énième fois à ce qui s'est passé avec Apu du côté des Simpsons, du côté américain. Hank Azira, qui est un acteur blanc, ne fera plus le doublage du personnage indien de la série. De même que, sauf erreur, dans la série Family Guy, celui qui doublait Cleveland Brown, qui était interprété par un blanc, qui a surpris beaucoup de monde lorsqu'on a découvert que l'acteur qui doublait Cleveland Brown dans la série américaine n'était pas blanc. N'était pas noir, il était blanc. Ben, techniquement, il est supposé être maintenant recasté. Donc, un acteur noir jouera le rôle de Cleveland à l'avenir dans la série, du moins dans le doublage américain. Donc, c'est commencé. Puis même, pour certains films, je pense à Arm, que justement, le personnage principal est noir, est un Afro-Américain, a été interprété par un acteur aussi. Donc, on va faire de plus en plus attention. Je veux dire ça comme ça. On va faire de plus en plus attention à l'avenir de ne pas caricaturer ou de ne pas créer des accents pour pouvoir mieux représenter pour que justement ça soit les bonnes personnes qui se trouvent à faire des doublages. Et chose qui est importante et qu'on entendait encore une fois pour revenir au doublage, au reportage sur le doublage de Radio-Canada, on n'engagera pas non plus des acteurs de la diversité pour uniquement jouer des acteurs de la diversité. Donc, si la voix fonctionne, si l'accent fonctionne avec le personnage qui sera doublé dans le film, dans la série, dans les dessins animés, ça pourrait arriver aussi. On va faire appel à eux. Donc, on ne fera pas nécessairement appel à eux parce que le personnage est noir. On va demander à une personne noire de jouer ce rôle-là spécifiquement. Donc, ce qui est quand même bien, ce qui est quand même une bonne idée de ce côté-là. Donc, on ne va pas cantonner, c'est tout ça le mot, on ne va pas obliger à jouer un pour un tout le temps. On va quand même ouvrir cette diversité-là. Donc, probablement aussi dans le dessin animé, ça va être plus facile parce que généralement, les acteurs